Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Rosalie Suc, mais aussi Margot Leridon et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Cindy Le Grumelec. Nous poursuivons notre série consacrée aux frontières de la colère. Lundi, nous évoquions la question du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Hier, nous avons parlé des accords de l'Union européenne visant à déléguer à d'autres pays la gestion de l'immigration. Aujourd'hui, on va se pencher sur les frontières entre les anciennes républiques soviétiques centra-asiatiques et les conséquences d'une délimitation parfois problématique. De Fergana à Vorouk, cartographier l'Asie centrale. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous, les gens du coin, nous subissons les tensions et les heurts depuis notre enfance. Cela nous est très familier. Les incidents à la frontière reviennent tous les 2-3 ans, encore et encore.
Les tensions réapparaissent sans cesse. Les habitants du coin ne veulent pas partir, en aucun cas. Nous sommes nés ici et nous protégeons cette terre. Le gouvernement devrait faire pareil. Il devrait définir la frontière autant que possible. La frontière kirghizo-ouzbek devrait être définie clairement et il ne devrait y avoir qu'un seul point de passage. Après cela, tout sera réglé.
J'ai personnellement parlé avec le Premier ministre tadjik. Il est sur le point d'arriver. Nous allons lancer une commission intergouvernementale afin d'aborder tous les enjeux liés à la frontière. Nous avons déjà réuni les polices locales ainsi que les représentants du gouvernement des environs et les pourparlers vont se poursuivre.
Voilà, on entendait à l'instant des témoignages de deux frontaliers kirghizes à propos des tensions permanentes avec les Ouzbeks. Et puis le Premier ministre kirghize, Jenis Ravskov, qui était venu en mars dernier à la rencontre de son homologue à la frontière pour discuter précisément de ces problèmes frontaliers. En effet, depuis la chute de l'URSS, les anciennes républiques soviétiques centra-asiatiques sont loin d'avoir soldé leurs différents frontaliers. À titre d'exemple, en juillet dernier, le média Novostan.org, un média franco-allemand, rapportait la mort d'une personne dans des affrontements entre Kirghiz et Tadjik dans une région située entre Vorouk, une enclave tadjik du sud du Kirghizistan, et Aksaï, un village kirghiz. Cet événement a eu lieu alors que les présidents des deux pays avaient prévu de se rencontrer pour s'accorder sur le différent frontalier. Des accès de violence, il y en a régulièrement dans la région, notamment dans la vallée du Fergana, qui est partagée entre le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan. Pour comprendre leur origine, il faut remonter près de 30 ans en arrière. 1991, un nouveau chapitre s'ouvre pour le monde et en particulier pour ces cinq républiques qui accèdent à l'indépendance après des décennies de coopération régionale sous l'égide de Moscou. La chute de l'URSS marque alors un tournant pour ces nouveaux pays qui doivent alors s'accorder sur des frontières de territoire qui, à l'époque soviétique, n'avaient absolument pas vocation à devenir des nations. Alors quels sont ces différents frontaliers qui vont émerger sur les cendres du bloc de l'Est? D'ailleurs, d'où viennent les frontières actuelles? Par qui et comment ont-elles été définies? Quels sont les efforts déployés pour tenter de les résoudre et permettront-ils de mettre en place une coopération régionale suffisamment poussée pour assurer le développement de ces populations? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités, d'abord ici avec nous en plateau à Paris, Julien Torres, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, chargé de recherche au CNRS et puis responsable scientifique de l'Atlas numérique Carte Orient, un portail sur l'Asie centrale, le Caucase et l'Iran. À nos côtés, mais en duplex de Lausanne, donc presque à côté de nous, Svetlana Gorchinina, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également ce matin. Vous êtes historienne, secrétaire générale de l'Observatoire de l'héritage culturel d'Asie centrale, Alerte Héritage, et chercheuse associée au Centre d'archéologie UNS-CNRS. J'évoquais ces heures l'été dernier avec ce site Novostan que j'ai découvert hier pour préparer cette émission qui relatait l'escalade entre Kirghiz et Tadjik, c'était en juillet dernier. Avec d'abord, semble-t-il, un drapeau brandi en guise de provocation. S'ensuit alors des insultes, des jets de pierre, et puis finalement une fusillade éclate tuant un Tadjik. C'est pas la première fois qu'on a ce type de conflit dans cette zone-là. Il y avait eu des conflits en mai dernier, en mars dernier, avec des morts à la clé, mais bien avant même. Est-ce que vous diriez, je vais commencer avec vous Julien Torres, qu'on a eu ces dernières années une accélération, une aggravation des violences, ou finalement on est dans une forme de régime de violence un peu latent qui est à peu près le même depuis l'effondrement de l'URSS?
Alors, je crois qu'il y a deux éléments de réponse. La première chose, c'est que effectivement, depuis que les frontières du Fergana sont devenues internationales, et depuis en particulier qu'elles ont été fermées et pour certaines portions d'entre elles équipées, il y a des tensions autour de ces frontières et c'est une réalité depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, il faut aussi distinguer les frontières en fonction des États qu'elles séparent. Et là, vous parliez d'une portion de frontière entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Et effectivement, depuis quelques années, il y a, après une période d'accalmie, un développement des tensions sur cette frontière. En revanche, vous avez mentionné l'existence de l'Ouzbékistan, et il y a, depuis l'accession au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev, à la suite d'Islam Karimov, plutôt une baisse des tensions sur les frontières entre l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, et entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.
Oui, parce qu'il essaye de marquer une rupture avec un grand mouvement de réforme, peut-être de nouvelles relations avec ses voisins et une approche finalement assez différente des frontières, mais on y reviendra tout à l'heure. Svetlana Gorchenina, il y a évidemment la question purement des frontières sur laquelle on va se pencher assez largement lors de cette émission, mais ce qui provoque de l'instabilité, il faut peut-être le mentionner, c'est aussi les différences de niveau de vie de ces populations. On parlait de la vallée du Fergana qui est partagée entre le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan. Il y a en réalité des décalages assez importants de conditions de vie et on imagine que ces différences participent de cette instabilité générale.
Oui, moi je pense que ça c'est une réalité, il faut l'admettre. Moi je prendrai un autre exemple qui sera également très parlante, donc c'est la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Donc le Kazakhstan, il a le niveau de vie beaucoup plus important que l'Ouzbékistan. Et le passage entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, donc la frontière, elle n'est pas trop loin de Tashkent, de la capitale de l'Ouzbékistan. C'était toujours extrêmement compliqué. Les gens partaient au Kazakhstan pour s'acheter de nourriture, de vêtements. Donc, et pour cela, ils faisaient les files d'attente pendant des heures, parce qu'il y avait une ou deux checkpoints seulement pour traverser cette frontière. Donc, évidemment, dans cette file d'attente, il y a toujours des sentiments de mécontentement, il y a toujours des petites protestations, et voilà. Et ça, c'est une des catégories des problèmes. Mais il y a une autre qui, à mon avis, beaucoup plus importante. Dans ces frontières qui n'ont pas été conçues comme des frontières nationales entre des États comme de vraies frontières, donc c'était des frontières purement décoratif, si j'ose dire comme ça, à l'époque soviétique. Donc, où ils sont devenus de vraies frontières. Donc, infranchissables pour certains tronçons. Et les familles, donc en Asie centrale en général, ce sont des familles assez grandes, élargies. Ils se retrouvent très souvent des deux côtés des frontières. Et donc, pour traverser les frontières, ça devient une affaire très compliquée pour les membres de ces familles entendues. Que, par exemple, pour les événements comme des mariages ou des décès, enterrements, donc ça devient une histoire en soi. Comment il faut traverser les frontières fermées au moment où il faut être présent, surtout pour des événements graves comme enterrement. Et par exemple, entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, à un moment donné, donc, les frontières étaient carrément fermées. Et pour passer de Dushanbe à Tashkent, il fallait nécessairement passer soit par Moscou, soit par Istanbul.
On reviendra évidemment sur la manière dont on a délimité ces territoires-là, parce qu'effectivement, à l'époque, on n'envisageait absolument pas que ces territoires deviennent à terme des nations, et donc on les a pensés peut-être d'une manière un peu particulière, mais on y reviendra. Julien Torres, compte tenu précisément de ces violences qui peuvent éclater régulièrement dans ces zones frontalières, compte tenu des différends aussi qui existent entre ces pays, parce qu'il y a des problèmes de territoire entre ces pays-là, on met parfois en place des discussions, des négociations. C'est le cas par exemple entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan qui récemment a mis en place une commission pour essayer de régler les problèmes sur les quelques 900, un peu plus, kilomètres de frontières partagées. Avec quel résultat? Est-ce que ça fonctionne quand on discute sur les différents frontaliers? Est-ce qu'on arrive à résoudre les problèmes?
Alors, la première chose, c'est que au moment où ces États accèdent à l'indépendance, ils ont dû engager un travail très important de délimitation de leur territoire national et donc de fixation des frontières. Et selon les portions de ces frontières, le travail a été achevé, accompli ou pas. Et en l'occurrence, l'essentiel des discordances, des points de désaccord entre les États centra-asiatiques portaient sur les frontières du Fergana. De sorte qu'aujourd'hui, alors que, par exemple, la frontière entre le Kazakhstan et le Kyrgyzstan est délimitée, démarquée, reconnue, une partie des frontières du Fergana ne le sont toujours pas. Et c'est effectivement un des éléments de tension dans la région.
C'est le nœud du problème.
Non, je ne crois pas.
Ah oui.
C'est un des éléments. Mmh. Un des éléments. Parce que on voit bien que ces tensions frontalières, ces conflits quelquefois frontaliers, mettent en jeu des acteurs étatiques, mais mettent en jeu aussi les communautés locales et, je dirais, les populations locales et les représentants de l'État sur le terrain, les gardes frontières, par exemple. Mmh. Donc, il faut bien voir ces tensions frontalières à différentes échelles, à différents niveaux. Et je prendrai juste un exemple pour éclairer mon propos. Il y a, par exemple, des tensions qui naissent de l'impossibilité de traverser la frontière ou des difficultés liées au franchissement de la frontière, au fait qu'il y ait des franchissements illégaux de frontières qui peuvent être des franchissements de personnes, mais aussi de différentes marchandises, des flux clandestins, et vous pouvez avoir des incidents frontaliers qui naissent de ces situations.
Mmh. Alors, Svetlana Gorchenina, c'est là que je sollicite l'historienne que vous êtes pour essayer de comprendre la nature du découpage qui est effectué dans cette région-là, et peut-être en particulier dans le Fergana, mais en réalité partout dans cette zone-là. Je parlais, avant que l'on prenne l'antenne avec vous, Svetlana Gorchenina, je disais des frontières parfois un peu bizarroïdes, vous m'avez repris, vous dites « Non, elles sont absolument pas bizarres ». Il n'empêche que quand on prend une carte, ce que j'ai sous les yeux, je vois qu'il y a dans cette zone, dans cette vallée du Fergana en particulier, une multitude de petites enclaves, une enclave tadjik côté kirghize, des enclaves ouzbèques du côté kirghize, bref, il y a quand même une forme d'incongruité là-dedans. Alors, expliquez-nous d'où ça vient.
Ben, c'est compliqué. C'est vrai que le résultat, si on regarde la carte, ça semble bizarroïde. Mais si on regarde un peu l'histoire, on voit d'où c'est sorti. Et il faut se rendre compte que c'est une histoire qui ne date pas des 91, donc le moment où les pays sont devenus indépendants. Ça remonte vers l'époque beaucoup plus éloignée. Donc les frontières que nous avons actuellement, c'est un héritage direct de l'Empire russe. Donc en partie, certains tronçons reflètent exactement les lignes des frontières qui ont été dessinées, précisées, reconnues sous le régime du tsar pendant les conquêtes de l'Asie centrale par l'Empire russe.
Mais c'est surtout l'époque soviétique et les années 1920-1930 définir l'essentiel des découpages.
Oui, absolument. Ouais. Mais donc les soviets, ils étaient aussi obligés de se battre avec cet héritage tsariste. Mmh. Et donc en partie, ils ont réussi à l'éliminer, mais en partie, ils ont encaissé tout ce qui était déjà bâti à l'époque précédente.
Oui, ils sont donc, pas partis de zéro. Ils sont pas partis de zéro.
Mais alors, c'est ça.
Si on prend les années Svetlana Gorchenina 1920-1930, parce que nous, à l'image qu'on a un peu de tout ça, c'est que c'est effectivement avec l'émergence de ce bloc soviétique qu'on va découper ces territoires-là et que les choses vont en réalité se faire de façon extrêmement centralisée depuis Moscou. Alors, vous racontez dans votre livre, je sais pas si je l'ai cité encore, Asie centrale, l'invention des frontières et l'héritage russo-soviétique, qui était paru aux éditions du CNRS, vous racontez comment, en réalité, il y a eu évidemment une participation des acteurs locaux dans la mise en place de ces frontières, Svetlana Gorchenina. Ça n'a pas été tout décidé par Staline depuis Moscou.
Non, évidemment. Donc ça, c'est un mythe qu'il faut oublier. Donc c'était un processus très complexe. D'ailleurs, je rappelle que c'est un processus qui a duré quand même 12 ans. Donc il a commencé en 1924 et il est terminé en 1936. Et pendant ces plus que 10 ans, il y a eu beaucoup d'ajustements des frontières, il y a eu des projet différent. C'est un projet qui était très complexe. Donc, premièrement, il est tombé sur une période très difficile pour les nouveaux pays soviétiques, parce que c'était les réformes agricoles, c'était les nouvelles politiques économiques, c'était les guerres civiles, c'était l'époque où les soviets ont commencé la collectivisation, l'industrialisation et le processus d'indigénisation. Donc, c'est en russe, c'est kalinisatsia. Donc, le but, c'était faire promouvoir des cadres locaux pour qu'ils puissent arriver au pouvoir. Donc, si on a... il y a une autre chose, c'était la guerre civile qui, quand même, encadrait pendant toute cette période, toute l'Asie centrale. Donc, on a eu le mouvement des Basmachi, donc... les leaders locaux qui ont essayé de combattre à l'époque donc le pouvoir soviétique jusqu'à l'époque des années 30. Sur ce fond qui était très complexe, il y a eu des tentatives d'organiser cet espace d'Asie centrale d'après plusieurs points de vue. Donc, il ne faut pas dire que le projet de délimitation nationale, c'est comme ça qu'il était intitulé, il arrive comme ça, donc tout fait, tout projeté. Non, c'était un cheminement où il y a eu beaucoup de projets qui n'ont pas été stables, qui changeaient du jour à l'autre, et le pouvoir soviétique s'est montré plutôt hésitant par rapport à tous ces projets. D'autre part, c'était pas quelque chose cavaleresque, donc on arrive, on partage avec les ciseaux, avec une règle et un crayon. Non. Il y a eu quand même plusieurs commissions qui ont travaillé pour pouvoir trouver des raisons, comment il faut partager. Et d'ailleurs, tout ce processus a commencé avec un projet de cession. Donc uniquement des cessions, qui était plutôt à la base un projet économique. Mais c'est un projet de cession, il est arrivé, comme je dis, à un moment difficile. Et après 1917, c'était un véritable kaléidoscope des petits États, des petites républiques, des petites structures qui apparaissaient, qui disparaissaient, qui étaient réunies, qui étaient séparées. Donc l'espace n'était pas du tout stable. Comme exemple, donc, on peut prendre l'autonomie du Turkestan, une petite structure qui se déclarait juste à la fin de 1917 et qui était démolie après 4 mois d'existence.
Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de manières d'appréhender cette question frontalière et qu'on a beaucoup hésité en réalité. Julien Torres, finalement, ce qu'on voit, c'est que l'approche qu'on a retenue, c'est l'approche économique, l'approche productiviste. En général, quand on fait des frontières, on regarde soit la topographie, la géographie, et on définit les frontières avec, que sais-je, un lac, une rivière, une montagne, que sais-je encore, ou alors on regarde les communautés, les identités ethniques, confessionnelles, etc. Là, pas du tout. C'est pas le cas.
Si, en fait,
un peu. Attendez,
on va faire chacun son tour. Je reviendrai vers vous, Svetlana Gorchinina. Julien Torres, vous en
prie. Si, beaucoup, parce que le principe d'organisation territoriale de l'URSS était fondé sur l'existence, enfin, la reconnaissance de nationalités, d'ethnies et de territoires dits nationaux. Et c'est précisément pour cela qu'apparaissent sur la carte politique de la région un Ouzbékistan, un Kyrgyzstan, un Tadjikistan, un Kazakhstan, etc., etc., etc.
Donc des considérations ethniques.
Donc là, il y a des considérations ethniques qui entrent en jeu. Mais d'autres critères ont effectivement été convoqués pour fixer là précisément la localisation de telle ou telle frontière, une fois que le principe général avait été lancé. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'idée générale d'avoir une carte politique fondée sur des territoires nationaux est une idée qui arrive des autorités centrales. En revanche, les différentes populations d'Asie centrale, au moins leurs représentants, se saisissent de cette décision. Et du coup, c'est ce qu'expliquait très bien Svetlana Gorchinina, s'engage dans un processus là de partition de la région qui n'était pas forcément celui qui était souhaité par tous, mais qui en tout cas aboutit à la carte politique d'aujourd'hui. Et si on prend la fixation de toutes ces frontières qui sont dont le tracé est effectivement très compliqué, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'exception de l'attribution de Tachkent à l'Ouzbékistan, qui est une mesure décidée à Moscou, tout le reste découle de décisions prises localement et de rapports de force du coup, entre les différents représentants de, enfin, ouzbek, tadjik, kirghiz, de l'élite centra-asiatique.
Dans ce que je comprends, c'est qu'en réalité, c'est une hybridation de toutes ces considérations. Il y a à la fois des considérations ethniques, communautaires, et à la fois des considérations économiques, productivistes. C'est un peu, finalement, les deux. Svetlana Gorshinina, peut-être voulez-vous ajouter quelque chose sur ce point, mais surtout ce sur quoi je voudrais vous entendre. J'ai toujours pas eu ma réponse, parce que moi, quand je regarde à nouveau ma carte Svetlana Gorshinina, pardonnez-moi, je vois une multitude d'enclaves toujours. Je veux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enclaves dans cette région. Svetlana Gorshinina.
Donc, voilà,
et puis ensuite, on viendra à la chute de l'URSS.
Oui, donc, ce que je voudrais dire, justement, les raisons économiques, il était évoqué, donc, il était étudié, mais ils n'ont pas pris en compte. Parce que donc c'était plutôt une fierté du pouvoir soviétique de dire regardez nos frontières, elles sont absurdes. Mais c'est ça qui est génial, faire des frontières absurdes pour montrer que l'État avec ce type de frontières ne peuvent pas exister, mais il existe parce que c'est un phénomène soviétique. Donc on peut coexister avec les frontières absurdes parce que c'est un organisme qui marche ensemble. Donc ça c'était une des thèses qui était évoquée plusieurs fois de suite. En ce qui concerne tous ces petits îlots. Comme a dit Jolène Torres, donc il est clair que le dessin des frontières il était fait au niveau local. Et très souvent, c'était des petites commissions qui se réunissaient. Donc il y a eu plusieurs représentants de la population locale, des administrations soviétiques. Et très souvent, ils ont voté où il faut tracer les frontières. Donc c'était vraiment quelque chose où on avançait centimètre par centimètre. Et il y a eu des situations très complexes, comme par exemple dans le delta de la Modaria. La Modaria, elle change très souvent son lit, donc il y a eu de temps en temps les îles qui apparaissent, et très souvent, donc justement ces petites îles, ces petits changements de cours d'eau, il était au cours des discussions. Donc et voilà, et il ne savait pas comment il faut partager. Et parfois, comme j'ai lu les rapports de toutes ces réunions, de temps en temps, les situations, elles étaient vraiment plutôt tragicomiques, je dirais, quand ils ont décidé que donc les frontières seraient par-ci ou par-là, ils ont commencé à partager les tables et les chaises pendant la même réunion pour justement séparer ça. Donc en ce qui concerne, je reviens avec cette histoire des îlots qui on a plusieurs.
Ce que vous appelez îlots, c'est enclave, qu'on soit clair.
Oui, c'est les enclaves.
C'est les enclaves, d'accord.
Voilà. Donc, et là, comme il y a eu plusieurs critères dont il fallait tenir compte, et il fallait faire quelque chose qui convient à tout le monde d'une part et d'autre part, donc il y a eu ces rapports de force au niveau local, donc ça donnait de temps en temps ces zigzags des frontières. D'autre part, il faut bien dire que le terme des nations, donc appartenance aux nations, c'est quelque chose qui n'existait pas clairement pendant les années 20, en tout cas pas au début de la délimitation. Et c'est une chose
Julien Torres d'Odeline, vous n'avez pas l'image, mais Julien Torres d'Odeline, il a l'air de dire que si quand même, si, je vous rends la parole, mais Julien, c'est important ça, Julien Torres, il y avait cette idée, ce principe de nation, selon vous au départ?
Disons qu'il y a, à partir de la fin du XIXe siècle, l'idée que la catégorisation de la population en ethnie, en nationalité, se développe. Et dans toute la région, ça ne veut pas dire que ça devient le seul niveau d'identité, mais ce qui est assez évident, c'est qu'à partir du moment où l'État, l'Empire russe, l'État tsariste, classe sa population en fonction de ses catégories nationales, ethniques, à partir du moment où l'URSS reprend cette classification des populations.
Elle la reconnaît de facto.
Elle leur donne du sens, elle leur donne corps, et dans la population aussi, des gens s'approprient ces catégories.
Oui, mais c'était pas quelque chose d'évident, donc c'était quelque chose de naissant, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de sentiments qui plaçaient les gens au niveau supra ou intranational, donc comme les paramètres tribaux ou religieux ou d'autres. C'était plutôt une continuum où le pouvoir tsariste, justement, a essayé déjà d'introduire des ethnies qui ont été fixées notamment lors des actes administratifs, donc en partageant les populations, au cours des renseignements populaires, mais les gens ne s'attribuent pas toujours à telle ou telle nation. Et très souvent, ils ont changé leur appartenance, justement au cours de cette délimitation, en raison du fait où il y a les sources d'eau, donc ils préféraient être ouzbèques ou les turkmènes. Donc
c'était des identités un peu fluctuantes,
voilà.
Finalement.
C'était quelque chose qui n'a pas été encore figé.
Avançons un tout petit peu dans le temps, Julien Torres, et venons-en à la chute de l'URSS, 1991. On est finalement dans une zone où les gens ont l'habitude de vivre les uns à côté des autres. Il y a du commerce, il y a des échanges, tout cela est parfaitement géré. On vit sous l'égide de Moscou et ça se passe très bien. Pourquoi à un moment, la conflictualité va jaillir de l'effondrement du bloc soviétique ? Qu'est-ce qui va poser problème ?
Alors, il y a plusieurs choses.
Pourquoi les frontières vont devenir un problème alors qu'elles ne l'étaient pas jusqu'ici ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que dans l'URSS finissante, il y a une forme d'ethnicisation des problèmes politiques et sociaux qui concerne l'ensemble du territoire soviétique et même du monde socialiste. Avec, dans cette région du Fergana, des conflits interethniques en 1989, en 1990 au sud du Kyrgyzstan, en 1989 en Ouzbékistan, qui précèdent donc la chute de l'URSS et qui précèdent donc l'internationalisation de ses frontières. Ensuite, une fois qu'elles deviennent internationales, il y a différentes raisons qui expliquent pourquoi elles cristallisent les tensions, les problèmes, et qui tiennent à la fois, je l'ai évoqué tout à l'heure très brièvement, aux relations entre les États, mais aussi au changement de réalité concrète de ces frontières et aux difficultés à les franchir, à les traverser et à tous les problèmes qui se greffent autour de ces frontières. Par exemple, la question de l'usage des territoires, par exemple, la question de l'attribution, de l'accès aux ressources, et notamment aux ressources hydriques dans cette région aride. Et cette question frontalière est d'autant plus importante que, c'est le cas dans le Fergana, mais c'est le cas plus largement en Asie centrale, la grande majorité de la population réside dans des districts frontaliers. Ce qui veut dire que les nouvelles frontières sont une réalité quasi quotidienne pour de très nombreux habitants de cette région, notamment dans toute une série de villages où les limites administratives devenues frontières internationales passent au milieu du lieu de peuplement.
Exemple de conflit d'usage qui va jaillir avec l'effondrement de l'URSS, la question de l'accès à l'eau, vous parliez de l'eau, le barrage de Toktogul, on est là au Kyrgyzstan, alors à l'époque soviétique il servait essentiellement à irriguer les terres, et puis d'un coup, quand chacun prend ses indépendances, eh ben, on se dit qu'on va en faire un barrage électrique pour électrifier le Kyrgyzstan.
Autrefois, et jusque dans les années 1980, on lâchait de très gros volumes d'eau durant les périodes de sécheresse en Ouzbékistan. Le lac était quasiment vide. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Nous sommes des républiques indépendantes. Chacune a sa propre économie. Le hasard a voulu que le barrage soit construit ici, au Kyrgyzstan. C'est une grande chance que nous avons. À présent, nous utilisons la centrale hydroélectrique uniquement dans l'intérêt de notre pays.
Voilà, extrait de ce reportage qui avait été diffusé sur Arte, guerre de l'eau en Asie centrale d'Arnaud Trumper. Svetlana Gorchenina, quand on se replonge dans cette période-là, 1991, comment est-ce qu'on voit depuis l'Asie centrale l'effondrement de l'URSS ? Est-ce qu'on comprend tout de suite qu'on est là face à un séisme géopolitique et qu'il va avoir des conséquences colossales sur l'Asie centrale et que tout de suite, il faut justement marquer ses frontières, il faut penser le futur des rapports avec le voisinage direct, ou est-ce que finalement on est un peu saisi par l'immobilisme et on comprend pas vraiment ce qui se passe ? Svetlana Gorchenina.
D'après mon souvenir, parce que bon, j'étais sur place à ce moment-là, les gens n'ont pas pris ça comme quelque chose qui arrive pour toujours. Donc c'était une nouvelle qui est tombée du ciel. Les gens pensaient que peut-être ça va s'arrêter au bout d'une année, au bout de deux ans. Et c'est au fil des temps où il s'est venu cette conscience que oui, donc on est devenu souverain, on est devenu indépendant. Et c'est après que donc toutes les républiques ont commencé à construire son histoire de l'indépendance. Et c'est après où, en tout cas dans, au niveau des lectures de l'histoire, on a commencé à dire que il y a eu toute une période de la lutte, de la guerre pour l'indépendance. En réalité, à mon avis, c'était en quelque sorte un accident. Et à un moment donné, les gens ne comprenaient pas trop. Donc, et par ailleurs, le pic de l'exode de la population dite non titulaire, il ne tombe pas sur 91. Il commence un tout petit peu plus tard où les gens ont pris conscience que l'Union soviétique est finie, donc il n'y a plus cet espace commun et que les réalités sont différentes. Donc il faut bien tenir compte que c'était un moment où notamment le nationalisme il a montré son visage. C'était une des signes de la fin de l'époque soviétique définitive. Donc c'est le départ des gens.
Julien Thorez, est-ce que justement c'est précisément ces nouveaux nationalismes naissants que décrivait Svetlana Gorchinina qui vont provoquer ce désir très fort de marquer les frontières des pays? Parce que après tout, et par ailleurs d'ailleurs, je crois que tout le monde n'a pas eu le même empressement dans le marquage des frontières. Certains ont été plus volontaires que d'autres en la matière. Je crois que par exemple l'Ouzbékistan a fait beaucoup d'efforts en la matière. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut dire effort, mais en tout cas en mettant des postes frontières, en minant un certain nombre de lignes avec des mines antipersonnelles. Comment se fait-il? Pourquoi cet empressement à marquer les frontières? C'est un signe de nationalisme, de nouveau nationalisme naissant?
Alors, je ne sais pas s'il y a eu un empressement, parce qu'en fait, les frontières commencent à être marquées, fonctionnalisées dans la seconde moitié des années 90.
Donc il y a quand même pas immédiatement, ouais.
C'est pas immédiat. En revanche, il est important de noter que les territoires d'Asie centrale étaient au moment des indépendances complètement imbriqués. On voit le tracé des frontières. Ouais. Il y a aussi le fait que les réseaux de transport, les réseaux de canaux, etc., traversaient, transgressaient ces frontières. Et donc, les républiques d'Asie centrale nouvellement indépendantes doivent composer avec cette situation d'imbrication territoriale. Et du coup, dans ce contexte, la mise en œuvre des nouvelles frontières permettait de développer une politique d'aménagement du territoire qui visait à l'individualisation des territoires nationaux les uns par rapport aux autres. En d'autres termes, en fermant les frontières, en leur donnant corps, on participe à la construction de la nation, de l'État-nation. Il faut ajouter, et vous l'avez mentionné, qu'il y a aussi une dimension sécuritaire à cette fermeture des frontières, voire une dimension autoritaire, puisque les États qui ont poussé le plus loin cette politique de fermeture des frontières sont l'Ouzbékistan et le Turkménistan, qui sont des États qui avaient un régime autoritaire présidentiel fort.
Et alors précisément, l'Ouzbékistan, vous nous le disiez tout à l'heure en début d'émission, il n'a plus Karimov à la tête de son pays. Islam Karimov, il a été président de 91 jusqu'à sa mort en 2016. Il a désormais un nouveau président, Mirziyoyev. Est-ce que on peut attendre de cet homme une rupture dans la manière dont on appréhende la question frontalière, la question du rapport aux États voisins?
Alors, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a effectivement mené d'importantes réformes, notamment dans la politique régionale. Et il y avait des tensions non seulement sur la question strictement frontalière, mais aussi des différends plus larges avec les autres États d'Asie centrale. Et depuis qu'il a accédé au pouvoir, Shavkat Mirziyoyev essaye de développer des coopérations avec les différents pays voisins. Et là, on a un changement de paradigme politique quand même très important. Et compte tenu de la situation géographique de l'Ouzbékistan au cœur de l'Asie centrale, puisqu'il est le seul des États de la région à avoir une frontière commune
avec tous les autres
pays, on peut imaginer que cette évolution de la politique régionale de l'Ouzbékistan pourra avoir des répercussions à l'échelle de l'Asie centrale tout entière. Et encore une fois, je voudrais insister sur le fait que les frontières sont une réalité quotidienne et pour beaucoup d'habitants de cette région. Et cette nouvelle politique frontalière de l'Ouzbékistan est du coup très favorablement perçue en Ouzbékistan, mais aussi dans les pays voisins, puisque des flux transfrontaliers qui avaient disparu, des relations entre, ont pu reprendre.
Svetlana Gorchinina, c'est décisif là ce qui est peut-être en train de se passer. Julien Torres nous dit effectivement l'Ouzbékistan, il est au cœur de cette zone-là et on a peut-être une nouvelle politique frontalière. Est-ce que vous croyez, vous, en un élan, est-ce que vous croyez en l'hypothèse selon laquelle l'Ouzbékistan pourrait demain être la locomotive de nouvelles négociations généralisées à l'ensemble de la région avec, pourquoi pas, je sais pas moi, un grand sommet intergouvernemental qui réunirait les 5 pays de la région et avec à la clé peut-être un accord sur les différends qui seraient entérinés par les parlements. Rêvons, Svetlana Gorchinina, est-ce que c'est une option qui vous semble aujourd'hui envisageable?
Écoutez, j'aimerais bien croire, hein, mais j'ai certains doutes à ce sujet.
Lesquels?
Donc, première chose, il faut bien dire que l'Ouzbékistan, c'est pas le seul leader dans les régions. Donc, il a un voisin extrêmement puissant, c'est le Kazakhstan. Et c'est le Kazakhstan qui est, pour le moment, le pays beaucoup plus prospère que l'Ouzbékistan. Ça, il faut bien dire. Il a le poids.
Plus prospère, donc, plus grand, plus...
Voilà. Et donc, avec les ressources qui, quand même, sont extrêmement importantes. Et donc, on peut pas dire que l'Ouzbékistan, il peut être le leader unique et incontestable. Bien que, ça, il faut bien dire aussi que pendant toute cette période, l'Ouzbékistan, il a toujours voulu jouer cette carte de leader régional. Il a toujours voulu donner des leçons aux autres. Et par ailleurs, donc, cette histoire des frontières...
Mais pardon, vous rappelez l'importance du Kazakhstan. Est-ce que vous voulez dire que le Kazakhstan ne serait pas enclin, précisément, à rentrer dans cette dynamique de négociation pour envisager le règlement de ces différents frontaliers?
Non, je pense que si il faut avancer, ils doivent avancer les deux ensemble.
Donc, mais il n'est pas contre le Kazakhstan. Le Kazakhstan n'est pas contre.
Non, le Kazakhstan n'est pas contre. Donc, à mon avis, c'est les deux pays qui vont dans la même direction. Et ce que je voudrais souligner par rapport à l'Ouzbékistan, il y a un signe quand même pour moi extrêmement important. Le nouveau président Shavkat Mirziyoyev, il a ouvert les frontières pour les étrangers. Donc, les Français, les Suisses, ils peuvent venir sans visa. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, à mon avis.
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour aller visiter cette magnifique région. Julien Torres, vous vouliez réagir.
Je voulais juste dire que le règlement des différents frontaliers relève de relations bilatérales. Et du coup, il y a effectivement un travail qui est mené entre les États pour aboutir à la fixation des frontières du Fergana. Et simplement concernant le rôle du Kazakhstan, le Kazakhstan, lui, a déjà fixé ses frontières avec le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan. Du coup, il n'est pas directement concerné par le règlement de
ces questions. Il y avait un peu moins de différence. Mais
c'est aussi une volonté politique de ne pas instrumentaliser la fixation des frontières dans le cadre de l'établissement des relations entre les États. Cela dit, il est évident que le Kazakhstan est plus que tout autre État dans la région, celui qui porte des initiatives d'intégration régionale, que ce soit en Asie centrale ou plus largement à l'échelle de l'Eurasie.
Ouais, et puis il y a peut-être un autre élément qui peut nous donner de l'espoir, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, quand on regarde les choses, ce sont des conflits éminemment locaux en réalité. Ça part toujours du terrain. La mécanique que je décrivais tout à l'heure, qui part de l'insulte pour aller jusqu'à la fusillade en passant par le jet de pierre, c'est malheureusement un grand classique, mais ce sont des conflits éminemment locaux. Alors il y a évidemment, j'imagine, des instrumentalisations politiques, mais il y a véritablement quelque chose à régler sur le terrain. Et donc il y a un désir des populations de le faire. Svetlana Gorchinina, encore un élément, et puis ensuite on parlera d'un autre acteur qui est central dans tout ça, qui est la Chine, qui peut-être pèse aussi sur tout ça. Svetlana Gorchinina.
Écoutez, ça, j'ai pas de clé à donner comment il faut régler ce genre de situation. Il y a beaucoup de problèmes. D'une part, il y a les situations d'instabilité parce que, du point de vue financier, du point de vue démographique, surtout au Fergana, il y a quand même le problème de chômage qui existe. Et c'est ça qui peut provoquer à n'importe quel moment une explosion quelconque. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que pendant plus que 20 ans, ces pays, ils étaient sous pression du nationalisme acharné, donc tant bien de la part de l'Ouzbékistan que de la part du Tadjikistan. Donc les gens, ils ont cette, entre guillemets, fierté nationale qui était éduqué, qui était remonté par l'État même. Et voilà, ça ressort immédiatement parce que si en Europe on a un certain... Même ça, je prends quand même des précautions à dire ça. Et donc, il y a cette volonté de se présenter plutôt européenne, tout en sachant qu'on est les Suisses, les Français, les Italiens et les autres. En Ouzbékistan, c'est avant tout marqué, après toutes ces décennies de l'indépendance, que nous sommes des Ouzbeks, nous sommes des Tadjiks, nous sommes des Turkmènes. Donc, ce nationalisme et les consciences nationales aiguës, c'est le résultat de ces années. D'un coup, on a un terrain qui est tout à fait favorable pour n'importe quelle explosion, à mon avis.
Donc, il faut nuancer peut-être notre optimisme. Julien Torres, et puis ensuite on accueille Thierry Kallner.
Très brièvement, j'aurais juste néanmoins souligné qu'il y a aussi un certain sentiment d'appartenance à la région du Fergana que l'on peut trouver chez les populations d'Ouzbékistan, indépendamment de leur nationalité, comme chez les populations du Tadjikistan ou du Kyrgyzstan. Il y a aussi des formes d'identité régionale là, ici.
Alors, il y a un pays dont il faut absolument parler, c'est la Chine, parce que quand on regarde la carte que j'ai sous les yeux, Julien Torres, on voit qu'évidemment, la Chine a une frontière commune avec le Kazakhstan, évidemment, c'est la plus grande frontière, mais aussi le Kyrgyzstan et aussi le Tadjikistan, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, faisant un tout petit peu d'histoire, la rupture sino-soviétique qui va durer de la fin des années 50 aux années 80 va rendre quasi impossible les liens avec les territoires d'Asie centrale. D'ailleurs, les frontières sont particulièrement militarisé à l'époque, ces régions c'est des véritables cul-de-sac. Et puis progressivement, à la faveur de la chute de l'URSS, cette frontière elle va s'ouvrir progressivement. Alors comment justement on va s'y prendre? Comment la Chine s'y prend pour structurer ses nouvelles relations avec ces nouveaux États à la faveur de la chute de l'URSS? Bonjour Thierry Kallner.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant au département de sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes un spécialiste de la politique étrangère chinoise et de la géopolitique de l'Asie centrale. D'abord, faisons un peu d'histoire. Revenons en 91. Est-ce que c'est 91 le renouveau de ces relations entre la Chine et les pays d'Asie centrale? C'est vraiment la dislocation ou ça commence un peu avant ou un peu après? Enfin, quand est-ce que ça le renouveau de ces relations?
Alors en fait, le renouveau donc des relations entre la Chine et ses voisins donc centra-asiatiques qui à l'époque font encore partie de l'Union soviétique commence en fait dès la deuxième partie donc des années 80, puisque on assiste parallèlement, si vous voulez, à un rapprochement entre donc la Chine et l'URSS, et donc il y a une ébauche, si vous voulez, de relations qui sont renouées vers 86, 87, 88 en fait.
Donc ça commence avant, ensuite, ça commence avant 91.
Mais voilà, donc ça commence avant 1991, comme vous le dites, mais c'est surtout évidemment avec la chute de l'Union soviétique et la création donc des républiques en Asie centrale que là la Chine va devoir prendre, si vous voulez, une décision et qu'elle va choisir finalement l'ouverture, en fait.
Elle choisit l'ouverture, mais après, quand même, des hésitations, après quelques atermoiements. Il y a un certain nombre, même d'ailleurs, de responsables chinois qui se demandent si c'est véritablement une très bonne idée que d'ouvrir ces frontières-là. Il y a même, paraît-il, j'ai lu ça hier en préparant cette émission, un projet, pourquoi pas, de construction d'un mur en bambou dans le Xinjiang pour justement se protéger de ces pays d'Asie centrale.
Oui, alors ça, c'est une image qui avait été utilisée effectivement par le gouverneur, comment dirais-je, de l'époque au Xinjiang. Il faut savoir que.
Mais c'était pas un vrai projet alors.
Non, c'est pas un projet matériel sur le terrain. Donc c'est une image. Donc créer effectivement une frontière hermétique pour se protéger contre un certain nombre de risques qui étaient identifiés donc à l'époque comme pesant donc sur cette région du Xinjiang. Il faut savoir que le Xinjiang est peuplé donc d'une population turcophone. On trouve des Kazakhs, des Kirghizes, mais on trouve aussi énormément de Ouïghours, puisque c'est un petit peu leur territoire, je dirais, national entre guillemets. Et donc, ce qui effrayait évidemment considérablement Pékin à l'époque, c'est que à ses frontières naissaient des républiques centra-asiatiques, donc indépendantes, musulmanes, dont on retrouvait des populations éponymes donc sur son propre territoire. À cela, il fallait ajouter aussi le facteur afghan, parce que en Afghanistan, vous aviez les Moudjahidines qui venaient de chasser finalement l'Union soviétique. Donc, et au Xinjiang même, on avait eu en 1990, donc en 1990, un incident dans pas loin de Kashgar, où pour la première fois, la Chine avait été confrontée à un groupe armé, en fait. Donc, la réaction première avait été de, effectivement, fermons ces frontières, déployons des forces armées et protégeons-nous.
Mais finalement, l'intérêt économique, l'intérêt commercial va prendre le dessus. Il y a quand même un obstacle qu'il va falloir franchir, c'est celui des différents frontaliers. Parce que là aussi, la Chine a quelques différends avec ces nouvelles nations qui viennent de naître.
Alors oui, les nouvelles nations donc, qui naissent en Asie centrale, quelque part, héritent du conflit frontalier sino-soviétique. Hein, ouais. Donc à l'époque du schisme sino-soviétique, il ne faut pas oublier que Mao Zedong avait déclaré que la Chine n'avait pas présenté l'addition des pertes territoriales qui résultaient de la politique impérialiste de l'Empire des Tsars, en fait. Hein. Quand vous comparez la carte de l'étendue territoriale de l'Empire des Qing, donc de l'Empire Manchou, avec la carte de la République populaire de Chine, vous vous rendez compte que le territoire Manchou était beaucoup plus large. Il y a des millions de kilomètres carrés qui ont été perdus au profit de l'Empire russe, en fait.
Et alors, comment on va régler ces différents territoriaux?
Pardon?
Comment va-t-on régler ces différents territoriaux?
Alors, ça va se faire par étapes. Le rythme des règlements a varié donc d'un pays à l'autre. Ça a été relativement rapide avec le Kazakhstan, puisque dès 1994, on a un traité frontalier qui est signé. Ça va un peu moins vite avec le Kyrgyzstan. Il faut attendre 1998 pour que le premier traité donc soit signé. Et ça irait encore moins vite avec le Tadjikistan, en fait. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que chaque fois, les différents frontaliers vont être réglés en deux étapes. Donc, la Chine conserve toujours si vous voulez, donc on signe un premier traité, mais toutes les questions ne sont pas réglées. Donc on a toujours un moyen de pression si jamais les républiques d'Asie centrale, quelque part, ne tiennent pas compte des intérêts chinois, par exemple, des intérêts de sécurité au niveau de la population ouïghour du Xinjiang. Donc pas d'assistance.
Il y a évidemment, Thierry Kellner, un cadre qui va être mis en place pour régler ces problèmes. C'est 96, l'Organisation de coopération de Shanghai, fondée par la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, et puis ensuite il y a d'autres pays qui vont venir s'associer, comme l'Inde et le Pakistan. Au départ, il est question précisément des différents frontaliers, mais en fait, assez rapidement, on va formaliser cette réunion pour l'élargir à d'autres objectifs.
Oui, alors l'Organisation de coopération de Shanghai, donc, qui est officiellement née en 2001, effectivement remonte au groupe de Shanghai, qui lui est fondé en 1996, dont un des objectifs, effectivement, est discuter des questions frontalière et surtout de la démilitarisation donc de ces frontières. Là, on a deux traités qui sont signés en 1996 et 1997. Et puis, effectivement, cette organisation donc va s'étendre rapidement à d'autres objectifs. C'est une organisation, il faut le rappeler, qui a été mise en place donc à l'initiative de Pékin. C'est la première organisation internationale régionale qui est créée à l'initiative de la Chine. Et c'est une organisation qui est le produit, si vous voulez, de la politique de bon voisinage. Parce que toute la stratégie mise en place par Pékin à l'égard des républiques d'Asie centrale s'inscrit dans cette politique de bon voisinage dans lequel on peut inscrire aussi le règlement des questions frontalières, parce qu'on ne peut pas imaginer avoir de bonnes relations avec ses voisins si les frontières ne sont pas clairement définies, délimitées et reposant sur un traité international. Et donc l'Organisation de coopération de Shanghai, au départ, à travers le groupe de Shanghai, a servi à ça d'abord.
Oui, sauf qu'ensuite, il va y avoir des accords commerciaux, il va y avoir des investissements absolument massifs dans la région, et Pékin va comme ça diffuser son influence dans l'ensemble de ces régions-là. Quand on se place précisément dans ces pays-là, comment est-ce qu'on voit la montée en puissance de cette influence chinoise? Je ne parle pas des responsables politiques, je parle de l'opinion, des opinions.
Alors là, évidemment, l'opinion est partagée parce qu'il y a effectivement une partie des élites locales, par exemple, qui tirent profit des relations économiques avec la Chine. Hein. Donc simplement pour rappel, en 2018, la Chine était le premier partenaire économique de la République kirghize, le premier partenaire économique de l'Ouzbékistan, le premier partenaire économique du Turkménistan. C'était le troisième partenaire donc du Kazakhstan et le troisième partenaire donc du Tadjikistan. Donc on voit bien là qu'il y a en tout cas des élites locales qui en tirent profit. Mais d'un autre côté, il y a aussi un sentiment un petit peu d'inquiétude par rapport à cette puissance chinoise qui est quand même extrêmement grande. Les relations sont très asymétriques entre la Chine et chacune des républiques d'Asie centrale qui sont des petits États, qui sont des États beaucoup plus faibles d'un point de vue économique. On a très peur aussi de la démographie chinoise. Et s'ajoute à ça, évidemment, les informations qui proviennent donc de la province du Xinjiang, où on voit aussi le traitement que la Chine fait subir donc à sa minorité turcophone uyghour et qui, quelque part, donc donne une image pas très positive de Pékin. Donc, il y a eu effectivement, dans certains pays, des manifestations aussi anti-chinoises, des manifestations de sinophobie.
Oui, parce que quand vous parlez d'inquiétude, vous êtes gentil. anti. On peut carrément effectivement parler de sentiment anti-chinois. Si on regarde par exemple le Kyrgyzstan, en 2010, il y a eu des manifestations, des mobilisations très importantes où on brûlait tout simplement des commerces chinois. C'était quand même assez violent, donc ça montre qu'il y a un sentiment anti-chinois très fort. Julien Torres, jusqu'où est-ce qu'il pourrait aller? Quand on regarde là très récemment, il y a eu une visite d'État du président kazakh à Pékin. Et lors de cette visite, il y a eu partout, un peu partout au Kazakhstan, des manifestations, des mobilisations pour précisément dénoncer l'influence grandissante de Pékin. Jusqu'où est-ce que ça pourrait poser problème et remettre en cause la place de Pékin dans cet espace centra-asiatique ?
C'est très difficile à dire, d'autant plus que les manifestations récentes que l'on a vues au Kazakhstan sont des manifestations qui ne sont pas des manifestations de masse. Alors, est-ce que ce sont des manifestations de petite taille, des mobilisations qui touchent simplement une petite partie de la population, ou est-ce que les conditions difficiles dans lesquelles on peut exprimer librement son opinion expliquent les raisons, enfin expliquent pourquoi elles sont de faible ampleur. Ce qui est sûr, c'est que il y a toute une série de régions, de secteurs d'activité qui apparaissent un peu comme sensibles aux yeux de certains pans de la population au Kazakhstan. Et il y a déjà eu des reculades du gouvernement sur cette question, sur les relations avec la Chine, puisque il y avait eu un projet de location de terres à des investisseurs chinois, et devant une levée de boucliers de la majorité de la population au Kazakhstan, l'État kazakhstanais a décidé d'annuler ce projet.
Thierry Kellner, encore un tout dernier mot, on arrive presque au terme de cette émission, mais il y a quand même un point sur lequel je voudrais vous entendre. Comment est-ce qu'on réagit du côté de Moscou quand on voit la montée en puissance de l'influence chinoise dans ces républiques centra-asiatiques ?
Écoutez, je pense que cela soulève une grande inquiétude. Alors malgré, vous avez des déclarations officielles qui consistent à dire que jamais les relations entre les deux pays n'ont été aussi bonnes, malgré la coopération militaire qui est surtout donc liée finalement au facteur américain, il est clair que pour la Russie, la crainte, c'est d'être marginalisée. Alors le meilleur exemple, c'est l'accueil quand même relativement froid qui est fait à Moscou par rapport au grand projet de Xi Jinping, donc des routes de la soie. On essaie évidemment de pouvoir en tirer profit, mais d'un autre côté, on se rend aussi bien compte qu'une partie des itinéraires, en tout cas, contournent la Russie, traversent les territoires donc centre-asiatiques, et que quand vous regardez donc le différentiel de puissance au niveau économique entre donc la Russie et la Chine, eh bien, si l'on est russe, on ne peut que s'inquiéter, évidemment. Hein. L'économie chinoise, aujourd'hui, c'est 5 fois l'économie russe, quand même. Donc, effectivement, la Chine a des moyens économiques, financiers, démographiques, dont la Russie ne bénéficie pas, et aujourd'hui, la Chine s'est imposée finalement comme un acteur régional incontournable dans une zone où elle était complètement absente il y a 25 ans en fait.
Merci beaucoup Thierry Kellner. Pour aller plus loin, l'Occident de la Chine, Pékin et la Nouvelle Asie centrale 1991-2001 qui était paru au PUF. Merci également à nos invités Julien Torres qui était avec nous ici à Paris. Je rappellerai vous concernant que vous avez notamment dirigé l'ouvrage Asie centrale des indépendances à la mondialisation, mais surtout que vous êtes responsable scientifique de l'Atlas numérique Carte Orient, qui est un portail sur l'Asie centrale, le Caucase et l'Iran qui a besoin, qui mérite d'être plus connu. Svetlana Gorshinina, un grand merci d'avoir été avec nous également en duplex de Lausanne. Je remercie les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. On poursuivra demain nos pérégrinations autour de ces frontières de la colère. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et le débat sur les limites de la méritocratie que vous avez commencé hier, et vous nous le disiez, il rebondit dans les pays anglo-saxons. Les principaux arguments échangés, Brice ?
On les trouvera dans l'hebdomadaire The Chronicle of Higher Education, qui est la plus importante publication consacrée à l'enseignement supérieur aux États-Unis, qui pouvait évidemment pas rester en dehors de ce coup-là. Car lorsqu'on attaque la méritocratie, le règne des experts, on s'en prend nécessairement aux universités d'élite. Alors, The Chronicle vient de publier 10 interventions émanant de personnalités variées et force est de constater que les défenseurs du système s'y trouvent en minorité. Mais commençons par le prestigieux chef d'orchestre et musicologue Léon Botstein, qui est le président du Bard College de New York. Il invite à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La société tout entière, dit-il, a besoin que ceux qui ont gagné leur statut par leurs réalisations authentiques continuent de viser l'excellence. Or, au nom de la justice sociale, certains voudraient qu'on y renonce. Mais le problème actuel, c'est que la méritocratie est trop conformiste. On n'encourage pas assez, dit-il, le courage, et en particulier celui de résister à la sagesse commune. Une société démocratique, je le cite, aura toujours besoin de grands scientifiques, de grands écrivains, de grands artistes, de grands entrepreneurs, d'individus éminents tant dans le business que pour le service de l'État. Mais ce ne sont pas nécessairement ceux qui auront été le mieux notés au cours de leurs études qui en feront partie. Le mérite, c'est un terme trop vague, proteste de son côté Agnès Callard, qui enseigne la philosophie à l'université de Chicago. En vérité, on mélange deux choses assez distinctes en l'occurrence. Le fait de récompenser une personne qui a accompli quelque chose de significatif, cas des soldats auxquels on donne des décorations, des savants ou des écrivains auxquels on décerne des prix. Mais lorsqu'on examine un candidat ou une candidate postulant à une de ces universités, ce qu'on évalue, c'est un potentiel et non pas un accomplissement. Et cela s'apparente davantage à des examens d'embauche. Dans le premier cas, on doit faire jouer un principe de justice, ne pas récompenser les moins méritants au détriment de ceux qui le sont davantage. Dans le second, un principe d'utilité. Or, observe Agnès Callard, ce dernier est bien difficile à mettre en œuvre, le principe d'utilité, qui nous garantit, dit-elle, que ce candidat au cursus scolaire impeccable n'a pas posé sa candidature à tel prestigieux collège dans le seul but d'y faire des rencontres amusantes et de passer ses soirées en partie arrosées.
Alors Brice, selon quels critères exactement sont sélectionnés les candidats et candidates à ces établissements de prestige?
Témoignage de Caitlin Zaloum, qui enseigne à la New York University. Elle a publié un ouvrage d'enquête sur la manière dont les parents américains donc utilisent le système d'éducation supérieure aux États-Unis. Les parents s'attendaient à ce que les collèges ouvrent des perspectives de réussite à leurs enfants. Au lieu de quoi, dit-elle, ils sont devenus des tests d'évaluation de la vertu des familles. Qu'entend-elle par là? Eh bien que les chargés d'admission prennent en considération bien d'autres éléments d'appréciation que les seuls dossiers scolaires. La pratique d'un sport de haut niveau, c'est connu, vous donne des points en plus, voire certaines séries américaines. Ou bien le fait de bien jouer d'un instrument de musique, ou encore l'engagement dans des causes altruistes. Or, en ce qui concerne en tout cas les deux premiers cas, la musique et le sport de haut niveau, c'est devenu un investissement coûteux pour les parents des classes moyennes. Ils ne peuvent plus payer tout ce qu'on leur demande. Les tuteurs, les leçons de musique, l'inscription dans un club de sport, les voyages de groupe. Mais le réquisitoire le plus implacable contre ce système méritocratique et la sélection donc basée sur le diplôme qui l'accompagne, on la trouve sous la plume d'une enseignante de philosophie née au Pérou. Jennifer Morton écrit « Mon expérience personnelle me l'a prouvé, il n'y a pas d'égalité d'accès à l'enseignement supérieur. Le talent et la persévérance ne paient pas nécessairement. » Fin de citation. Pourquoi? Eh bien parce que les familles aisées, explique-t-elle, achètent une maison dans un bon district, un de ceux qui va offrir à leurs enfants des établissements secondaires de qualité. Ils investiront pas mal d'argent dans la préparation aux examens d'entrée, devenu un business très rentable aux États-Unis. Ils veilleront aussi à faire des dons généreux au collège prestigieux de l'endroit, secret de Polichinelle, ça aide. Ils utiliseront leur réseau de relations pour procurer à leur progéniture des stages valorisants. Et puis l'étudiant, passé par toute cette série de bonnes fortunes, sera persuadé qu'il ne doit ses succès qu'à ses seuls efforts. Quant aux enfants de familles pauvres qui parviennent à se glisser dans ce système, ils se retrouveront à l'issue de leurs études face à un cruel dilemme. Aider leurs familles et leurs amis restés là-bas à se débattre avec la pauvreté, ou bien s'agréger au milieu des vainqueurs et leur tourner le dos.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.